Chaque mardi, dans l'auberge espagnole, on reçoit un des membres de la section de Montpellier de la Ligue des Droits de l'Homme. Et aujourd'hui, c'est Jean-Charles Tadéhi qui est avec nous. Bonjour Jean-Charles.
Bonjour.
Alors, on est ensemble pour parler vidéosurveillance, un terme d'actualité depuis quelques années déjà, et qui pose toujours nombre de questions concernant, on va dire, la liberté des gens ou leur volonté de non-liberté, avec aujourd'hui des éléments sociologiques.
Voilà. Alors, le ministère a publié en 2007 une étude montant une acceptabilité de la vidéosurveillance de l'ordre de 78%. Alors, ça nous a interpellés. Du coup, on s'est mis en cheville avec une sociologue qui est de l'Université de Strasbourg, qui s'appelle Madame Horry, et qui en a fait une thèse, en quelque sorte. Et son panel d'interrogatoire, c'était un peu pour voir si cette acceptation n'était pas trop globale et s'il y avait des variantes, qu'est-ce qu'ils acceptaient vraiment, quelle est la limite de leur acceptabilité. Et on s'est aperçu finalement que les choses étaient beaucoup plus complexes, ce qui nous laisse quand même un champ de manœuvre pédagogique.
Donc au niveau de cette acception des gens de la vidéosurveillance, qu'est-ce qu'ils acceptent les gens? Parce qu'on imagine bien que, par exemple, on est bien content d'avoir une vidéo si on a subi un accident de la route et que le type s'est barré et qu'on n'a pas pu faire de constat ni se faire indemniser. Autant on ne va pas forcément accepter d'avoir une caméra de surveillance qui soit orientée sur la fenêtre de sa chambre.
Voilà. Alors, elle est partie d'abord d'une différence entre lieu public et lieu privé, en sachant qu'aussi, dans les lieux publics, il y a beaucoup de variantes. Alors, lieu privé, par exemple, les gens acceptent assez bien l'implantation dans un supermarché, par exemple, pour les vols. Pourquoi ? Parce que leur réponse montre qu'ils estiment que c'est un lieu où ils vont, dont ils ne sont pas propriétaires. Et donc, ils acceptent que ce soit une démarche du propriétaire lui-même. Dans les lieux publics, alors, il y a des variantes. Il y a des variantes parce que, autant par exemple, les femmes, hein, surtout, acceptent très bien les vidéos dans les parkings sombres. Hein, on sait le nombre de viols, hélas, qui existent. Autant, par exemple, la rue, elle est variante parce que la rue, vous avez à la fois les terrasses de café et vous avez un espace de circulation. Alors l'espace de circulation, les gens déambulent, ils y voient pas trop d'obstacles. Par contre, la terrasse, c'est l'immobilité et c'est la conversation avec autrui. Et ça implique deux choses parce que le fait d'être immobile, ça permet un temps d'observation du surveillant, en quelque sorte, beaucoup plus long. Mmh. Et donc, pour eux, ça pose problème puisque là, on tombe dans l'intime.
Voilà, intime que les gens sont pas du tout prêts à abdiquer, quoi que ce soit un petit peu paradoxal. D'ailleurs, on voit en ce moment une campagne de pub d'un célèbre moteur de recherche qui atteste ça. Les gens sont prêts parce que c'est nouveau, peut-être parce que ils ont l'impression d'être wired, d'être branchés, etc. Ils sont prêts sans se rendre compte finalement de ce qu'ils sont réellement en train de faire. Ils sont prêts à mettre des vidéos de leurs enfants sur internet, sur leur page Facebook, des photos de vacances, des trucs finalement perso qui regardent personne et dont d'ailleurs Facebook a parfaitement le droit d'utiliser pour faire de la publicité vu qu'il n'y a pas eu encore de jugement en France contre ça. Donc ils ont quand même, les gens sont un peu paradoxaux, pour pas dire schizophrènes.
Oui, alors là on se rapproche des tranches des générations les plus récentes et effectivement il y a une sorte de, à l'anglo-saxonne on dirait no control, c'est-à-dire qu'en fait ils ont l'impression que leur image maintenant fait partie d'un jeu médiatique comme si elle leur appartenait plus. Mmh. On le voit, hein, ils le mettent, comme tu dis, dans Facebook. Hein, et donc, il y a cette impression qu'on les interroge que finalement, tout se sait. Et donc, finalement, il y a plus tellement, on ne peut plus tellement finalement contrôler la chose. Mais ceci dit, on ne peut pas dire dans les études, si tu aimes mieux, qu'il y a des opposants à 100% et des partisans à 100%. Même les opposants à 100% estiment que le surveillant doit être encadré par une charte qui surveille ce qu'il en fait de cette photo Et donc ça, c'est un travail que l'on fait, nous, hein, mais on ne veut pas pour autant le fait qu'on cherche à l'encadrer légalement, croire qu'on avalise le phénomène qui prend des extensions phénoménales, finalement. Mmh.
Est-ce que cette sociologue a publié cette thèse? Est-ce que c'est prévu?
Alors, elle est en ce moment, il y a son résumé qui circule sur le net. Nous, certainement, on aura l'extenso et à ce moment-là, on essayera aussi, avec son accord, de le mettre sur le net. Et surtout, on va essayer d'en tirer, en quelque sorte, des axes de travail pour voir que tout n'est pas acceptable et de façon à réduire ce champ. Je te parlais en introduction de quelque chose qui nous a effaré tout récemment, actuellement en Grande-Bretagne, hein, qui sont très en avance sur nous, c'est les premiers à avoir vraiment diffusé. Vous avez des supermarchés qui, pour pas payer un surveillant de leur caméra, mettre sur le net une proposition, en fait, à tous les internautes qui le voudraient, de surveiller leur hypermarché et dès qu'il y a une détection de quelque chose qu'ils estiment anormal, finalement, il y aurait une sorte de jackpot de gain X ou Y. Et c'est une façon, en fait, tous surveillés, tous surveillants, quoi. Mmh.
Oui, c'est sans tomber dans la paranoïa. Alors, fondamentalement, c'est vrai qu'il y a le cauchemar de George Orwell, hein, « Big Brother is watching you », c'est sûr que ça fait peur quand on se dit que l'outil de surveillance est entre les mains du pouvoir, par exemple, ou d'un seul pouvoir, ou d'une seule personne. Et puis, parallèlement, on est tenté de se dire aussi, si finalement tout le monde a accès à cette surveillance, si les outils de surveillance sont transparents, si les logiciels sont libres, si finalement personne n'a de contrôle absolu sur ce truc-là, finalement, ça pourrait être le non plus le cauchemar d'Orwell, mais en quelque sorte le rêve. Remplaçons les parlementaires par des programmes qui appliquent les lois qu'on est censé faire appliquer. Est-ce que justement l'arrivée massive des moyens techniques de télésurveillance qui sont décuplés grâce à Internet, sans lequel effectivement le supermarché britannique n'aurait pas pu faire cette proposition alléchante à ses clients, finalement le problème qui se cache derrière ce problème de vidéosurveillance, c'est-à-dire justement ma vie privée, est-ce qu'on peut me surveiller quand je suis à une terrasse de café et que je discute avec quelqu'un? Non, ça ne devrait pas être possible, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un tournant technologique, sociétal autour de cette question, finalement, du contrôle?
Oui, et alors j'en veux pour preuve, parce que on voit bien, par exemple, au niveau européen, il y a un consensus en disant, nous sommes une démocratie apaisée, nous avons en quelque sorte plus grand chose à craindre d'une atteinte fondamentale aux libertés. Mais qu'est-ce qu'on voit au niveau européen? On voit que peu à peu, dans pas mal d'États, vous avez des partis extrêmes qui prennent des parts importantes de vote dans les parlements, hein, par le jeu des élections. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, ces outils peuvent être sous le contrôle de gens qui n'ont aucune bienveillance pour la démocratie et qui, à un moment donné, lorsqu'ils n'auront plus aucun obstacle, disons législatif, ce sera des outils qui seront irrécupérables pour nous, citoyens. Donc, il faut faire très attention que, malheureusement, les exemples de l'histoire ont montré qu'il y a des régimes totalitaires qui sont arrivés par le jeu de la démocratie. Mmh. Et donc, on ne met pas n'importe quoi dans les mains d'un État.
Absolument. Tu disais que sa thèse circule un petit peu sur Internet. J'imagine qu'on peut peut-être retrouver les liens sur le site de la section de Montpellier de la Ligue des droits de l'homme.
Alors, pas encore, mais pas encore.
Prochainement.
Sur la Ligue des droits de l'homme Montpellier, normalement, autant que je sache, oui, je ne crois pas l'avoir encore mis, parce qu'en fait, on fait des archivages annuels. Mais pour ceux qui voudraient, je pense que son texte a déjà été publié au niveau journalistique, il faudrait tout simplement « Acceptation de la vidéosurveillance, Muriel Ory, O-R-Y ». Université de Strasbourg, dans un moteur de recherche, je pense qu'ils trouveront trace du résumé de l'étude.
Parfait. La semaine prochaine, c'est un autre des membres de la section de Montpellier, la Ligue des droits de l'homme, qu'on recevra pour aborder un autre thème, un autre dossier, une autre campagne de la Ligue des droits de l'homme. Jean-Charles, merci et une bonne semaine d'ici là.
Merci à toi.
Au revoir.